Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Frédéric. Comment vas-tu?
Très bien, toi?
Très bien aussi. Aujourd'hui, sur ton initiative, on va enregistrer un épisode spécial sur le fait d'une, notamment une compagnie française, parce que vous êtes une compagnie française, qui vient s'installer au Canada. Donc, c'est comment l'approche à l'internationalisation, au lieu juste de faire de vendre à l'étranger, mais de s'installer à l'étranger aussi. Et en l'occurrence, ben là, vous avez choisi le Canada, donc tout ce qui est mener vos choix et votre réflexion. Fait que je vais te laisser passer avec ça et j'ai vraiment beaucoup de questions qui vont émettre.
Effectivement, comme tu dis, hein, c'est un sujet qui nous sort un petit peu des sujets qu'on a pu aborder jusqu'ici. C'est hein, très cybersécurité, intelligence artificielle, analyse de malware, tout ça. Donc vraiment, on va dire l'aspect peut-être plus technique hein, de notre activité. Et là aujourd'hui, oui, ça va être un petit peu différent parce que suite à plusieurs échanges hein, qu'on a eu, effectivement, on s'est dit qu'on allait aborder quelque chose de différent. Et en l'occurrence, bah, le fait que moi je sois ici au Canada depuis un petit peu moins d'un an maintenant pour l'internationalisation de notre société. Et donc voilà, je pense que quelque part après tous ces mois de découverte, d'immersion dans l'écosystème, dans la culture canadienne, finalement je pense que c'est assez intéressant de revenir là-dessus et de se dire bah, quels sont alors à la fois qu'est-ce qui nous a fait faire cette démarche-là, qu'est-ce qui fait qu'on est venu au Canada, dans quel contexte, au niveau de la société, au niveau personnel, etc. Et puis aussi bien sûr bah, les enseignements, bah, toutes les choses. Ah, peut-être que j'aurais bien aimé qu'on me dise, dont on me prévienne avant, sur un certain nombre de choses. Donc, je pense, vont être assez, voilà, assez intéressantes à partager. Et puis, si ça peut en inspirer d'autres, alors, des personnes qui viennent de France pour aller au Canada, bien sûr, mais aussi, même d'une manière générale, ça peut être des personnes qui viennent du Québec ou d'autres zones du Canada, potentiellement francophones, si vous nous écoutez. Voilà, si on peut donner quelques retours d'expérience, je pense que ce sera, à mon avis, très intéressant.
Oh oui, absolument. Puis, tu as passé un hiver au Canada, ce qui est quand même un épisode pour si tu es plus du sud de la France, qui peut être un peu plus particulier. Les gens du nord ou de certaines zones de la France qu'on connaissent la neige, mais c'est pas tant de Français que ça qui connaissent l'hiver canadien. Et en plus, tu as été chanceux, tu as eu un hiver qui a quand même été assez globalement clément sur l'état des températures. Là. Fait que c'est une acclimatation plus douce.
Alors oui, clairement. Enfin, moi, je suis à Toronto. Hein. Cette année, l'hiver à Toronto, c'est pas forcément ce à quoi on. Enfin voilà, j'ai pas vécu la ville bloquée pendant une semaine ou quoi. Je dirais qu'on a eu deux épisodes de neige où on s'est réveillé le matin avec 50-60 cm devant chez nous. Donc, je sais que t'es même au nord de Montréal, hein, plus du côté de Québec. Je pense que voilà, 50-60 cm de neige, c'est trois fois rien. Hein. C'est une petite, c'est comme une petite bruine.
Oh oui, absolument. On n'est pas dans les mêmes choses, mais Toronto, effectivement, c'est beaucoup plus allégé comme expérience hivernale.
Voilà. Ça, alors, on a fait quand même. Alors, bon, là, on est vraiment sur le côté personnel. On a fait quand même d'aller un peu dans la province, un peu au nord de Toronto, au moins une fois, un endroit où il faisait, je crois, moins 25. Des choses comme ça, histoire de voir un peu de froid quand même. Hein, donc, c'était assez intéressant à vivre. Et aussi en vacances au Québec. Donc, ce qui nous a permis, en plus, on est tombé en vacances pile à un moment où il a effectivement neigé à peu près un mètre de neige juste avant qu'on arrive. Donc, on a eu droit à la ville de Québec, etc., sous la neige. Donc, on a quand même vécu ça. Mais c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, l'hiver canadien à Toronto, en tout cas cette année, c'était pas quelque chose d'extrêmement violent.
C'est ça, ça t'a permis une acclimatation plus décente. Basculons plus vers le volet, pourquoi Glimpse s'est intéressé à venir s'installer au Canada, donc en essentiellement à l'international. Il y a des motivations qui vous ont amené à venir vous installer ici. Et est-ce que, justement, partagez de ces motivations-là?
Complètement. Alors, sans rentrer forcément dans tout le détail des discussions qu'il y a eu à cette époque-là, en fait, l'idée est née il y a assez longtemps, en 2020-2021. Ça commence à remonter. Lorsqu'on commençait à réfléchir, enfin même plus que réfléchir, hein, lorsqu'on échangeait avec des fonds d'investissement pour notre première levée de fonds importante qu'on a donc réalisée en 2021, où en fait, bah, une discussion qui arrive souvent hein, dans ces échanges-là, quand on commence à envisager bah, les montants de financement, les modalités, etc., c'est de se dire, bah, quelque part, qu'est-ce que vous, la société, vous prévoyez de faire de cet argent-là ? Donc il faut vraiment arriver avec un business plan solide. C'est pas tout d'avoir de l'argent. Il faut expliquer bah, comment cet argent va financer des développements, comment cet argent va financer la force commerciale et comment cet argent notamment peut financer aussi de l'internationalisation parce que c'est quand même un des sujets pour une société comme la nôtre. On est dans le monde du logiciel. Donc dans le monde du logiciel, évidemment quand on pense notre logiciel dès le départ, on se dit pas qu'on va s'adresser à un seul marché. Sauf sur des choses très spécifiques. Si on faisait du logiciel soit juridique ou des choses comme ça, évidemment, on s'adresse au marché juridique concerné par la législation sur laquelle on travaille. Dans le monde de la cybersécurité, quand on fait une solution de détection et d'investigation, j'ai envie de dire, c'est quand même très, très international. Donc, dès le départ, on pense, en tout cas, le produit de manière internationale. Et donc, dans ces discussions-là, à un moment, on s'est dit, bah oui, l'international, effectivement, ça peut être un sujet. On en a réfléchi entre nous au sein de la société, notamment entre les cofondateurs. Ce qui émerge assez vite, c'est que dans une stratégie d'internationalisation, il y a plusieurs possibilités, mais c'est vrai que quelque chose qui peut fonctionner assez bien, c'est un des cofondateurs qui va à l'international. Donc dans ces discussions-là, moi j'en ai discuté un peu avec ma femme. Voilà, on est en train de réfléchir à ça, à 2, 3, 4, 5 ans de la société, potentiellement de l'internationalisation. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, c'était très très loin quand on réfléchit à ces choses-là. Voilà, potentiellement de l'internationalisation, tout ça. Puis vraiment, ça s'est fait en quelques jours, hein, de ces discussions-là en plus. Et avec ma femme, très vite, on se dit bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas aller à l'international dans quelques années. On a un naturel, on va dire, on veut déjà voyager plusieurs fois, c'est le genre de choses. Oui, pour des périodes assez longues. On avait déjà vécu, par exemple, alors c'était pas tout à fait l'étranger, c'était la Guyane française. Donc ça reste un dom-tom français, mais on avait vécu 9 mois, en l'occurrence, là-bas. Donc on avait un peu cette fibre-là. Et donc, du coup, bah, on en discute au sein de Glimps, on en discute avec son investissement, notamment. Et on commence à évoquer cette idée que moi, j'étais prêt, personnellement, à aller à l'étranger sous une... En gros, vers, on va dire, 2022-2023. C'était un petit peu ça ce qu'on avait en tête en termes de délai. Les choses ont avancé. La levée de fonds s'est faite. Et on a, on avait cette chose-là. Et puis, 2022, effectivement, est arrivé. On a commencé à réfléchir à ça finalement, un peu plus concrètement. Notamment le choix de à quel endroit est-ce qu'on va, quel pays, quelle région. Évidemment, le choix assez naturel et ce qu'on voulait viser dès le départ, c'était l'Amérique du Nord. Notamment les États-Unis, on ne va pas se mentir, 80-85% du marché de la cybersécurité. Ça doit être 85%, je crois, l'Amérique du Nord, dont 70-75%. Donc les États-Unis, effectivement, qui étaient quand même un objectif important. Après, il y avait plusieurs raisons qui ont fait qu'on n'est pas allé, en l'occurrence, aux États-Unis. Une des premières raisons, c'était déjà, on va dire, d'un point de vue personnel. Parce que c'est un choix familial quand même d'aller comme ça à l'étranger. Et c'est vrai que les États-Unis, je me projetais pas forcément, on va dire, avec ma famille, etc., à aller aux États-Unis d'un point de vue personnel. Et puis une grosse raison aussi, c'est quand même le côté professionnel, parce que on est dans le domaine de la cybersécurité quand même, avec des enjeux de souveraineté, etc., qui sont assez forts. Et dans ce domaine-là, ce qu'on a quand même déjà constaté en échangeant avec d'autres sociétés, c'est que les États-Unis sont quand même un pays assez protecteur, assez défensif sur ce sujet-là. Ils ont des champions nationaux, on va pas se mentir non plus. Et du coup, c'est vrai que si certains pensent qu'on mange un peu sur leur plate-bande, etc., il peut y avoir un risque au niveau de l'entreprise. On a une entreprise que je citerai pas, hein, française, qui est allée aux États-Unis comme ça, qui a eu des déboires juridiques qui leur ont coûté plusieurs millions de dollars quand même, suite à un procès. Donc c'est quand même des choses, voilà, qui sont assez difficiles à anticiper. Et donc on s'est dit, bah finalement aller au Canada, ça permet quand même d'adresser l'Amérique du Nord et les États-Unis, sans pour autant prendre ces risques-là. Un peu aussi la stratégie, ce que j'appelle moi la stratégie OVH, hein, l'opérateur, hébergeur de data center OVH, qui est effectivement implanté au Canada et qui adresse l'Amérique du Nord depuis le Canada. Donc ça, c'était un peu les deux raisons qui nous ont fait aller au Canada. Après, il y a une autre question. Donc c'est vrai que d'un point de vue personnel, moi j'étais voilà, moi il y avait la possibilité d'avoir ce projet aussi familial, mais il n'y avait pas que ça dans le fait qui allait justifier que ce soit moi qui vienne au Canada. Ce qui était aussi intéressant, c'est que en France, en fait, c'était moi qui avais le rôle de tout ce qui est la communication quelque part, un peu les apparences publiques, d'intervenir en conférence ou sur des salons à plusieurs reprises, un peu être entre guillemets la voix publique, hein, de la société en France. Et c'est vrai que du coup, ça veut dire que c'est quelque chose. Alors, c'est pas une expérience que j'avais avant Glimpse, hein. J'ai découvert ça quand on a créé la société, que j'avais. Que je savais faire ça, hein, quelque part. Et là, c'est vrai, c'est intéressant de se dire, bah, finalement, ce qu'il va y avoir beaucoup ici, ça va être un travail de communication. Ça va être un travail de construire son réseau, de rencontrer, d'échanger, etc. De faire ce type d'intervention aussi, hein, voilà, de trouver l'opportunité d'être avec quelqu'un qui fait un podcast qui soit à la fois au Canada et en France, justement, donc en plus faire le pont, etc. C'est vrai que c'était quand même, bah, du coup, assez pertinent que ce soit moi qui le fasse, justement parce que j'allais pouvoir reproduire ce que j'avais pu faire en France. Donc toutes ces planètes-là étaient quand même, on va dire, pas mal alignées, et c'est ça qui nous a fait partir. Donc à partir de, on a commencé à, on a décidé quelque part le go no go en février-mars 2023. On l'a annoncé, je me souviens, c'était la veille du FIC à Lille, salon de la cybersécurité à Lille. La veille du FIC, en fait, on a annoncé officiellement et publiquement que je partais et qu'on ouvrait une filiale au Canada. Et j'ai déménagé fin août 2023 avec ma famille, donc ici à Toronto, pour voilà cette nouvelle expérience quelque part. Dans les points, c'est vrai que quand je parle de communication, etc., il y a aussi quelque chose. En fait, c'était pas que un hasard que j'ai cette position, on va dire, autour de la communication en France. C'est aussi lié à mon rôle sur la partie scientifique. Ça peut paraître un peu antinomique, hein, les scientifiques n'ont pas forcément toujours l'habitude de communiquer. Moi, il se trouve que j'ai appris justement à communiquer quand on a créé l'entreprise. On a effectivement découvert que je savais faire ça, que ça me plaisait aussi, hein, quelque part, c'est quand même important. Mais c'est pas ça qui m'a enlevé mon rôle justement sur la partie scientifique, la partie recherche, de pilotage des équipes au niveau de la recherche, etc. Et finalement, c'est intéressant aussi parce que en arrivant ici, ça me donne un rôle qui n'est pas un rôle de commercial. Je suis pas un commercial de France qui vient ici pour vendre. Et dans un certain nombre d'interventions que j'ai pu faire ici, en fait, j'ai même pas fait d'intervention vraiment commerciale. Au contraire, j'ai fait des interventions sur la fraude et la cybersécurité, l'IA et la cybersécurité. J'ai même présenté des travaux de recherche en février. Qui sont comment est-ce qu'on détecte des logiciels malveillants codés en PowerShell avec des grands langages de modèles, des LLM. Et ça, c'est des travaux qu'en fait j'ai initiés moi, qui ont été ensuite repris par les équipes. Et donc forcément, j'ai aussi toute légitimité quand je présente ces travaux-là. Et c'est vrai qu'en termes de discours, en termes de légitimité, encore une fois, dans des interventions, avoir une personne qui soit justement aussi les mains dans le cambouis au quotidien, c'est quand même quelque chose d'intéressant dans cette stratégie. Donc voilà, ça a quand même justifié pas mal de choses. Quand je suis arrivé, donc j'ai été président de la filiale canadienne. On a créé une filiale ici, donc Ça, c'est tout un travail. Hein. Pareil, à ceux qui se posent cette question-là, qui veulent un jour aller à l'international, c'est des choses qui s'anticipent. C'est pas là où je suis le meilleur et c'est pas forcément ma grande passion, hein, cette partie administrative. Donc, on s'est fait accompagner hein, et, donc pour déposer les statuts de la filiale, etc. Et donc, du coup, j'ai toujours quand même ce double rôle, c'est-à-dire que je suis à la fois président de la filiale ici, mais forcément, je garde une implication assez forte sur l'entreprise en France, que ce soit d'un point de vue direction, hein, participation aux discussions stratégiques, au conseil d'administration, comité de direction, etc., mais aussi côté recherche, où alors, c'est vrai que j'ai un peu moins d'activité de recherche aujourd'hui, mais je participe quand même à tous nos comités de recherche internes, voilà, toutes nos réflexions. Parfois, justement, quand j'ai quelques opportunités, ça m'arrive aussi de faire quelques travaux de recherche moi-même. Je garde aussi une certaine veille hein, sur les aspects de recherche, ce qui me permet d'être à jour et aussi, à la fois techniquement pour mes discussions avec l'équipe de recherche, mais aussi dans des fois des communications que je peux faire ou des présentations que je peux faire sur notamment l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Voilà un peu ce qui a, on va dire, motivé notre choix d'arriver au Canada.
C'est très intéressant. Là, moi, comme Canadien, moi, la question, et comme Québécois, la première question que j'ai par rapport à ça, c'est pourquoi vous avez choisi Toronto versus Montréal? Parce que de ma perception à moi, c'est plus naturel ou plus intuitif pour un Français d'aller à Montréal du fait francophone versus Toronto, justement, qui est plus considéré comme étant beaucoup plus anglophone.
C'est sûr. C'était une vraie interrogation dès le départ. On a regardé les deux, évidemment, en tant que société française. C'est un peu plus naturel d'aller à Montréal. Pour rien te cacher, moi, mon choix au départ se portait plutôt sur Montréal, notamment d'un point de vue personnel. Pour ma femme, mes enfants, etc. Je me dis que ce sera quand même plus simple. Ma femme, pour le coup, assez vite m'a dit qu'elle sentait bien Toronto, justement. Aussi d'un point de vue personnel, parce que finalement, parler après de la communauté francophone quand même. Mais un de ses arguments hein, qui lui faisait dire ça, c'était notamment pour elle, pour pouvoir trouver du travail. C'est tout bête, hein. Mais en fait, il y a un besoin, elle avait déjà identifié ça, qu'à Toronto, en Ontario, de manière générale, il y a un besoin de personnes francophones sur un certain nombre de postes. Elle est dans l'éducation en plus, et il y a un fort besoin dans l'éducation de personnes francophones. Alors qu'à Montréal, il y a peut-être un peu moins ce besoin-là, donc elle s'est dit, ce sera probablement plus facile de trouver un travail à Toronto qu'à Montréal. Elle avait assez juste hein, là-dessus, je pense. Donc ça, c'est bon. Voilà, ça c'était un argument. Et évidemment, après, il y avait d'un point de vue professionnel pour l'entreprise. C'est vrai que Toronto est pour nous plus pertinent dans cet objectif d'internationalisation vers l'Amérique du Nord et les États-Unis. On entend souvent que Toronto est la, je sais plus, c'est 3e ou 4e ville des États-Unis, hein. En termes de population, mais pas en termes de pays. Hein. N'oublions pas que Toronto n'est pas une ville états-unienne. Mais c'est vrai que c'est quand même une grosse ville d'Amérique du Nord, très centrée sur la finance, l'institution financière, donc des clients pour nous forcément très intéressants. Et puis aussi, justement, très international et beaucoup plus ouverte sur les États-Unis que ne peut l'être Montréal. Toronto avait quand même, j'ai revérifié ça récemment, c'est la ville la plus multiculturelle du monde. Donc c'est quand même pas anodin en termes d'internationalisation. C'est effectivement une ville qui est très 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 ouverte. Donc évidemment il y avait cet argument là professionnel d'aller à Toronto. Toronto est aussi au centre d'un arc de cercle, hein, si on regarde les États-Unis, avec Boston, Chicago, Philadelphie, New York, etc. Toutes ces villes-là sont à peu près à 2 heures d'avion hein, de Toronto, donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Et après, il y a aussi l'aspect, on va dire, plus lié justement à la culture professionnelle de Toronto, qui est, à mon sens, plus proche justement d'une culture états-unienne que d'une culture européenne. Sur tout ce qui va être discours d'un point de vue du marketing, sur les messages passés, etc. Ce qu'on nous a beaucoup dit avant qu'on vienne, et je pense pouvoir à peu près le confirmer. En fait, on a dit, si vous allez à Montréal, vous allez assez vite vous développer sur Montréal, ça c'est pas un souci, mais en fait, vous allez être relativement bloqué une fois que vous aurez fait ça. En allant à Toronto, finalement, je pense qu'on s'entraîne beaucoup plus vite à un discours, entre guillemets, nord-américain, au niveau de nos supports, au niveau de notre communication, etc. Et en plus, c'est tout bête, mais on est aussi forcé dès le début, on n'a pas cette espèce de confort en étant au Québec au niveau de la langue, c'est-à-dire qu'on est forcé dès le début de quasiment tout faire en anglais. Et finalement, ça fait que le jour où on veut passer aux États-Unis, notamment, le travail est déjà fait. Ou le jour où on veut aller dans d'autres endroits des États-Unis, le travail est déjà fait. À titre personnel, hein, j'ai fait beaucoup de progrès sur mon anglais aussi. C'est tout bête, mais c'est vrai que ça permet aussi d'être plus efficace dans cette phase-là.
Ouais, c'est non négligeable, ce volet-là, effectivement, comme de toutes les communications sont faites en anglais en premier, parce que c'est à Toronto, c'est comme ça, sont déjà prêtes pour le marché américain, puis même sans effort, vont atteindre le marché américain du fait que rejoindre par les différentes plateformes modernes, le fait que c'est en anglais, vont aller plus vite. Je fais une parenthèse parce que tu l'as quand même posé la question sur LinkedIn, parce que le Canada, c'est un pays bilingue, et on a toute cette espèce-là, même en communication, où le français est quand même présent dans les communications d'affaires, pas partout, pas souvent, mais quand même nécessaire dans certains égards, surtout quand on est à Montréal. On doit quand même faire un certain effort de francisation jusque-là. Puis la parole, on a une loi maintenant qui est encore plus sévère sur ces éléments-là, mais nonobstant cette loi-là, on avait quand même une particularité francophone qui est différente.
Effectivement, hein, ce sujet du bilinguisme, c'est une question aussi, qu'on s'est aussi posé dès le début. Notamment au moment où on a annoncé Glimps le fait que je partais au Canada, moi je l'ai aussi annoncé sur mon compte LinkedIn personnel que j'utilise beaucoup justement dans notre communication. J'ai aussi annoncé à ce moment-là, j'ai dit je m'excuse pour mon lectorat francophone parce que je vais basculer la majeure partie de mes communications en anglais à partir de ce moment-là pour m'adresser justement à une cible internationale. Donc à partir de là, j'ai quasiment tout fait en anglais. Mais c'est clairement une question que je me pose à chaque fois, parce que à chaque fois que je fais un post, aujourd'hui, hein, notamment, je sais qu'il va être lu beaucoup par des personnes ici au Canada et à Toronto. Je sais aussi que, mine de rien, 80-70% des personnes qui me suivent sur LinkedIn sont en France. Je sais aussi que ça va être forcément beaucoup suivi en France. Et puis je sais aussi que ça va être suivi au Québec. Et là, c'est vrai qu'il y a une stratégie à avoir qui n'est pas forcément triviale, de se dire je m'adresse à trois populations distinctes qui n'ont pas forcément les mêmes codes culturels, même pas forcément la même langue. Je fais le choix de m'adresser dans une langue. Donc, alors c'est vrai que parfois on voit hein, sur tous ces postes-là des gens qui vont faire d'abord anglais puis français puis ou français puis anglais, etc. Moi, j'aime pas trop ça. Je trouve que ça brouille beaucoup. L'algo de LinkedIn, je sais même pas comment il prend ça en compte, mais à mon avis, c'est pas non plus forcément pensé pour ça. Je préfère à la limite prendre le parti clairement de le faire sur une seule langue. Donc, plus l'anglais parce que oui, je sais que sinon, en fait, il y avait personne. Enfin, je suis parti du principe que les gens de toute façon savaient lire l'anglais. Après, c'est vrai que j'ai quand même toujours un certain nombre de communications qui sont à destination notamment de la France. Donc ça m'arrive d'en faire quelques-unes en français. Quand même, quand je rebondis sur des sujets un peu spécifiques, etc., ça m'arrive quand même d'en faire en français. Clairement, ce qui est amusant aussi, hein, c'est que je vois hein, sur le succès des publications que ça transparaît, hein, que j'ai énormément de relations francophones, parce que c'est vrai que quand j'ai un post en français, je vois tout de suite qu'il a plus de succès. On va pas se mentir, mais bon, c'est pas forcément. Mon but, c'est quand même de m'adresser aussi à l'écosystème ici. Et puis après, il y a la question du Québec. En étant à Toronto, on a aussi la volonté de travailler avec le Québec, volonté très forte, hein, forcément. Et finalement, ce qui est intéressant pour nous, c'est que je pense que c'est pas quand je discute avec d'autres sociétés à Toronto, hein, ils me disent oh non, le Québec, c'est même pas la même langue, etc. Enfin, c'est pour eux, ça va être beaucoup plus difficile. Nous, on a cet avantage-là, quelque part quand même. Et je sais que tu m'as posé la question à un moment, d'ailleurs, sur justement l'emploi du français et le fait que quand on va échanger avec des partenaires ou des prospects ou des clients qui vont être au Québec, justement, on va pouvoir parler en français. Et notamment, c'est vrai que moi, j'ai toujours fait l'effort, parce que c'était important pour moi, d'essayer au maximum de parler en français sans anglicisme. Et là, je pense que c'est pas le cas de toutes les sociétés qui viennent ici, hein, toutes les sociétés françaises qui viennent ici, notamment dans le monde de la technologie, hein, de bannir les anglicismes. Je pense que, alors là, c'est plus mon passé personnel qui fait ça, où déjà en France, en fait, c'était quelque chose auquel j'étais assez attaché, de bannir les anglicismes. Alors, pour la petite histoire, on va raconter quand même ce qui s'est passé en France. À une époque où j'étais à la DGA, on avait fait une présentation au STIC, donc Symposium pour la sécurité des technologies de l'information et de la communication, qui est un peu une des références en termes de conférences cybersécurité en France. Et j'avais fait une présentation une année, je crois que c'était l'année d'après d'une présentation faite par des gens de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, de personnes de l'ANSSI qui avaient fait l'effort à l'extrême de franciser leur présentation. Vraiment à l'extrême. Et donc, ils parlaient notamment des biscuits de pile, hein, à un moment dans leur présentation. Les biscuits de pile qui sont les stack cookies. Évidemment. Et donc, en réponse à cette présentation l'année d'après, quand on a fait notre présentation l'année d'après, pour faire quelque chose d'un petit peu, ludique, on va dire, on avait fait une présentation dans laquelle on avait mis des notes de bas de page. En bas des planches. Note de bas de page, justement, pour, on a dit en introduction que, je sors un peu du cadre de discussion, mais c'est vrai que ça explique des choses sur la francisation aussi. En introduction de notre présentation, on avait dit, voilà, on sait qu'il y a énormément de personnes de l'ANSSI dans la salle, et, afin d'être sûr qu'ils comprennent tous la présentation, on a mis des notes de bas de page quand il y avait des anglicismes. Et donc, dans les planches, il y avait à chaque fois des notes de bas de page, et qui allaient crescendo dans l'absurde, hein, justement dans les traductions, et je crois qu'à la fin on avait parlé de fenêtres ventouses, et il y en avait un autre comme ça, donc fenêtres ventouses sont les pop-up, hein, etc. Et on était allé assez loin là-dessus, ce qui nous avait valu quelques petites remarques derrière, hein, évidemment, notamment de personnes de l'ANSSI, bien sûr, enfin, bah, toujours amicalement, évidemment, mais c'est vrai que voilà, ça avait été un sujet. Et en fait, j'ai envie de dire, nous, quand on a fait cette présentation, pour moi, c'était même justement pas une difficulté, parce que le fait de parler français et de bannir les anglicismes, c'était quelque chose aussi que j'avais à cœur. Et donc finalement, en arrivant ici au Québec, bah, ça a été aussi un avantage, au Québec, au Canada, et du coup en discutant avec les gens du Québec, ça a été un avantage parce que ça nous permet aujourd'hui nous adresser à nos clients et nos prospects en utilisant la langue française sans anglicisme. Et je sais que c'est important pour les gens du Québec. Et c'est vrai que là on est dans la différence culturelle, hein, entre la France et le Québec. C'est en France, quelque part, il y a pas de protection. Alors si, officiellement, hein, évidemment, dans les lois, etc., il y a de la protection vis-à-vis des anglicismes. Mais j'aurais dit, la menace est peut-être un peu moins forte qu'ici au Canada, où la présence, évidemment, de la langue anglaise étant tellement importante que, mais je comprends tout à fait ce besoin de vouloir peut-être un peu plus potentiellement se protéger. Mais tout ça pour dire que quand on arrive comme société française au Canada, quand on arrive à Toronto, on s'adresse à ces trois communautés différentes, et ben c'est pas forcément facile tous les jours de trouver le bon discours, d'adapter la manière dont on va parler de nos sujets pour s'adresser à chacun, parce qu'on sait très bien que, notamment parce qu'on parle en anglais, en fait, tous vont le lire. Si on avait fait le choix, et c'est là aussi où il y a le côté où depuis Toronto, on peut travailler avec le Québec, alors que l'inverse est probablement moins vrai. Si on avait été au Québec, notre communication forcément aurait été en français, et donc elle n'aurait pas été perçue, elle n'aurait pas été lue depuis Toronto. Donc il y a quand même, du coup, ce choix-là est hyper dimensionnant, en fait, le fait d'être à Toronto. C'est vrai qu'on va s'adresser beaucoup plus à des communautés qui pourraient potentiellement être différentes.
Ouais, tout ça est intéressant, puis tu le mentionnes parce que c'est vraiment trois communautés, même si, puis je le répète, ça fait plusieurs fois que je le mets sur des posts. La France et le Québec, ce n'est pas la même chose. Contrairement à ce que bien des gens en pensent, la façon de communiquer ou de passer un message est plus anglophone en termes de style. Puis on va revenir dans un autre épisode quand justement on va aborder ces éléments-là de différences culturelles plus grandes, mais ça fait vraiment trois façons de communiquer distinctes pour un même message qui doit s'adapter à ces trois publics-là qui sont qui réagissent pas aux mêmes symboles, qui réagissent pas aux mêmes expressions, qui réagissent pas aux mêmes éléments. Donc, d'un point de vue commercial, ça a quand même des impacts importants. Et justement, comme tu le mentionnes bien, de bien cibler le type de publication que tu vas faire. Parce que dans tous les cas, on est en cyber, normalement, les gens en majorité comprennent l'anglais, mais sont toujours plus heureux de se faire communiquer dans leur langue maternelle.
Exactement. Enfin, ça, c'est voilà, ça on l'a vraiment senti. Et je pense que du coup, c'est quand même. Enfin, je dirais qu'on n'a pas eu trop de barrières à se développer au Québec du fait d'être à Toronto. Ce qui me permet justement.
En même temps, t'es souvent à Montréal aussi. Là. Ça aussi, faut pas le négliger que ta présence locale, elle est quand même. Significative. Je t'ai croisé à plusieurs reprises d'ailleurs dans des événements à Montréal, justement, qui permet justement de quand même de cajoler ce secteur-là aussi. Là.
Ben, tout à fait. Enfin, le but d'être au Canada, hein, c'est de pouvoir être justement des deux côtés. Et quelque part, si justement sur le retour qu'on peut en avoir, j'ai beaucoup parlé des motivations qui nous ont fait aller à Toronto. Il y en a une en fait qui n'est pas une motivation qui nous a fait y aller. Mais dont je vais parler parce que ça peut peut-être donner des idées à d'autres, parce que c'est plutôt un constat. En fait, c'est plutôt quelque chose que j'ai découvert ici. Il y a quelque chose auquel je m'étais pas attendu en allant à Toronto, c'était l'existence de la communauté francophone. Alors, pour quelqu'un qui connaît pas, effectivement, ça peut être surprenant. Je pense que pour quelqu'un qui connaît justement un peu Toronto, ça l'est probablement beaucoup moins. Toronto est, j'ai vérifié très récemment, hein, c'est la ville la plus multiculturelle du monde. Donc, c'est quand même pas négligeable. Donc, il y a vraiment de tout. Et en fait, il y a une communauté francophone qui est assez importante. Et finalement, pour une société qui arrive, qui connaît personne, parce que c'était vraiment mon cas, hein, quand je suis arrivé, j'avais absolument zéro réseau, hein, je connaissais vraiment personne. Le premier réseau que j'ai construit, c'était la communauté francophone. Et j'ai envie de dire, en allant à Montréal ou au Québec, en fait, je ne vais pas dire que la communauté francophone n'existe pas, puisque les gens sont francophones. Mais il n'y a pas une volonté, justement, de fédérer autour de cette communauté-là spécifiquement. Alors qu'ici, en fait, bah très vite, hein, je l'ai vu, il y a plusieurs cercles. Hein. Alors je peux les citer. Hein, il y a la GEF, par exemple, qui est l'amicale des grandes écoles francophones de Toronto. Il y a le Club canadien. Il y a la French Tech Toronto, hein, qui est aussi. Alors, ça, c'est une déclinaison d'une mission, on va dire, française, hein, pour le coup, donc c'est francophone et français, celui-là. Il y a le French Business Club, il y en a quand même pas mal, en fait, ici, de cercles francophones. Et alors, quand on dit francophone, c'est très générique. C'est-à-dire qu'on va trouver dedans des Français, on va y trouver des Québécois, et on va y trouver des Franco-Ontariens. Alors, au final, tous ces gens-là terminent Franco-Ontariens à un moment ou à un autre, hein, généralement. Hein, qui est le terme vraiment pour les francophones de l'Ontario. Donc c'est une population qui est assez mixte en fait, et de gens qui ont à cœur de se retrouver autour de la culture francophone et de faire des événements autour de la francophonie, à la fois sur la francophonie en elle-même, donc les sujets. Enfin, il y a eu un sujet une fois sur justement la francophonie en Ontario par exemple, mais aussi d'une manière générale des sujets qui touchent la francophonie. Enfin, par exemple, comme moi, je suis intervenu sur des sujets comme la fraude et la cybersécurité, c'était très, c'était pas spécifiquement lié à la francophonie, mais c'était au sein de l'écosystème francophone parce que c'est des choses qui intéressent évidemment à peu près tout le monde de manière générale aujourd'hui. Et du coup, en fait, quand je suis arrivé en quelques mois, j'ai créé vraiment mon réseau en partant de là. Alors, c'était aussi un travail, hein, en termes de, et ça a été un peu ma stratégie à ce moment-là, hein, c'est de se dire, finalement, je participe quasiment à tous les événements que je trouvais, Donc il y a des semaines, des fois j'en avais 3-4, souvent le soir. Hein. Donc c'est voilà, c'est quand même un engagement personnel et tout ça qui est pas négligeable. Alors très vite les gens m'ont repéré. Voilà, ça aussi, hein, ça c'est au bout de 2-3 mois, ils avaient bien repéré qu'il y avait un Français qui était arrivé en cybersécurité. Au passage d'ailleurs, c'est vrai que j'avais pas pensé à mentionner ça, mais il y a eu une stratégie aussi rétroactive là-dessus, qui peut paraître toute bête. Encore une fois, c'est une idée de ma femme. En 2021, comme je disais tout à l'heure, on a commencé à parler internationalisation et dire que j'allais aller au Canada. Et puis, il y a eu notamment, par exemple, le FIC, hein, Forum Cyber, à Montréal, qui était en 2022. À ce moment-là, moi, je savais que je viendrais vers 2023. Et en fait, un an avant ça, en 2021, ma femme m'a dit, tu vas aller là-bas, tu vas aller sur des événements, justement, par exemple, ce FIC-là, et puis tu vas rentrer en France, et puis en fait, tu vas t'installer, on va s'installer peut-être un an plus tard, etc. Les gens t'auront complètement oublié. Ce qui est vrai. Enfin, voilà, si je venais comme ça, sur un événement pour 2-3 jours, alors oui, on fait quelques contacts, etc. Mais concrètement, effectivement, un an plus tard, les gens ont complètement oublié la présence de cette société. Et puis elle m'a dit en plus, des barbus à lunettes qui ont les cheveux courts, hommes de allez, à peu près la quarantaine, en cybersécurité, il n'y a que ça. Donc tu vas vraiment passer complètement inaperçu. Là, tu me vois venir. Je sens, Nicolas, que tu me vois venir. Donc un an avant, c'est-à-dire dès 2021, ma femme m'a proposé, m'a dit, mais il faudrait un truc qui fasse que les gens te retiennent. Elle m'a dit, eh ben, laisse-toi pousser les cheveux. Et tu m'as vu venir. Et donc, effectivement, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que depuis 2021, je me suis laissé pousser les cheveux. Avant, j'avais les cheveux vraiment très très courts. Je veux dire, pour ceux qui me connaissent ici au Canada, je pense que ça peut surprendre, mais j'avais les cheveux à 10 mm à peu près. Et effectivement, en fait, bah, je me suis du coup laissé pousser les cheveux, ce qui a été très vite un signe distinctif. Et quand je dis que j'ai participé à plein d'événements en arrivant ici, en fait, effectivement, des hommes aux cheveux longs, hein, même barbus, etc. Enfin, il y en a quand même assez peu. Et en fait, clairement, les gens m'ont reconnu et m'ont identifié assez vite quand je suis arrivé. Et ce qui m'a, je pense que ça m'a servi, hein, justement, dans ce côté, créer mon réseau, me faire connaître, etc. Parce que c'était vraiment ça l'objectif. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Hein, depuis quelques mois, justement, on a entre guillemets changé. C'est-à-dire que mon objectif au départ, c'était nous faire connaître. Donc faire connaître la société, faire en sorte que les gens m'identifient. Parce que c'est ça justement qui a pu faire que j'ai été contacté pour des interviews. Enfin, je suis passé sur Radio-Canada, par exemple, ce genre de choses, qui a en plus une portée nationale. Et aujourd'hui, l'entreprise GLIMS, je dirais depuis février-mars après, à peu près, hein, c'est le retour qu'on a. Depuis février-mars, l'entreprise GLIMS est connue au Canada. Que ce soit côté Toronto, dans l'écosystème anglophone cyber. Hein. Parce qu'évidemment, en parallèle de toute cette communauté francophone, moi, j'ai participé aussi à tous les événements de la communauté anglophone cyber. J'ai identifié les quelques personnes clés aussi qui seraient mes points d'entrée, hein, dans l'écosystème cyber. Et donc, depuis février-mars, c'est vrai que ce soit à Toronto ou au Québec, les gens connaissent GLIMS et en ont entendu parler généralement.
Ouais, et en plus vraiment connu Frédéric Glimps, justement l'usage de ta chevelure comme étant une carte de visite, effectivement, ça fonctionne. Puis oui, je t'avais vu arriver quand t'as commencé à faire ton build-up, parce que moi, je t'ai jamais connu les cheveux courts. Pour moi, puis l'image, effectivement, elle est quand même assez forte et elle est distinctive et amène justement plus loin. Puis t'es un très bon ambassadeur de ta marque là, en ce sens.
Ben c'est, voilà, c'était vraiment ça. C'était vraiment ça l'objectif. Hein. Et alors d'ailleurs, oui, ça me fait penser à quelque chose là quand je parle justement des communautés cyber, où je suis moi entre guillemets rentré dans la communauté cyber à Toronto et aussi bah, par mes déplacements à Montréal, tout ça. Ça c'est quelque chose que moi j'avais pas forcément identifié sur l'aspect justement croissance sur l'aspect marché. Pour moi, de loin, alors si on prend les chiffres, hein, de manière un peu caricaturale, la France, 60 millions de personnes à peu près, le Canada, 40 millions de personnes. Je dis, ok, bon, bah, c'est un marché, voilà, deux tiers, un peu plus petit, tout ça. Sauf qu'en fait, quelque chose que j'avais pas vraiment anticipé, c'est que la France, en termes de cybersécurité, c'est un écosystème. Si je suis à Rennes, à Marseille, à Bordeaux, à Paris, à Lille, à Strasbourg, etc., je vends, en fait, dans toutes les autres villes que je viens de citer et autres, hein, tout ça, sans aucune difficulté. C'est le même écosystème. Les gens se connaissent, quelque part. Voilà, dans tout l'écosystème. Quand je suis arrivé ici, justement, par exemple, l'écosystème cybersécurité de Toronto, en fait, parfois, je leur dis, bah, tiens, est-ce que tu connais un tel de l'écosystème cyber de Québec ou Montréal? Et en fait, très souvent, ils ne connaissent pas du tout. Et quand je leur cite des personnes, je sais pas, par exemple, Nicolas Loïc Fortin, voilà, qui fait un podcast, etc., très connu, dans tout le Québec et toute la francophonie internationale, et ben, les gens ne connaissent pas. Et inversement, les personnes que moi, j'ai très vite identifiées comme étant des maillons un peu centraux de l'écosystème cyber sur Toronto, quand je cite ces noms-là à des personnes au Québec, je sais pas, Tony Abijaoud, Evgeny Garam, des personnes comme ça, et ben en fait, ils sont pas du tout connus. Et donc, ma conclusion, c'est qu'on a vraiment deux écosystèmes complètement distincts. Si on regarde entre les deux, on a Ottawa, qui est aussi relativement distinct, à mon sens, mais plus en termes de marché, notamment parce que c'est beaucoup le marché fédéral. On a aussi finalement la côte ouest du Canada, Vancouver, Colombie-Britannique, etc. Ce qu'il y a au milieu, je suis un peu moins familier, hein, j'avoue. mais c'est aussi, voilà, il y a quand même toute une zone d'activité. Et donc finalement, au Canada, avec 40 millions d'habitants, on n'a pas un marché, mais on en a minimum 3, 4, 5. Et donc c'est vrai que c'est quand même assez différent. Et en thème, ça veut dire que...
Ouais, absolument. C'est très intéressant parce que je ne savais pas à quel point c'était unifié en France. Quoi qu'il y a des événements qui sont beaucoup plus fédérateurs en France que ce qu'on a ici. Probablement culturellement, ça l'a amené cette fédération-là. Là, c'est drôle parce que tu sais, mettre en opposition Toronto, Montréal ou le Québec et l'Ontario est toujours intéressant parce que cette dualité-là, elle est typiquement canadienne. Mais en même temps, Ottawa, c'est un marché distinct. Vancouver, c'est un marché distinct. Si on va dans l'Ouest, notamment Calgary, qui est probablement un des gros piliers, est un marché qui est distinct. Parce que c'est le marché de l'énergie à Calgary, c'est le marché de la côte ouest à Vancouver et bon, tous ces éléments-là. Et ça se réplique également aux États-Unis, cette distinction-là.
Exactement.
Parce que c'est la même mentalité. Donc, on est très nord-américain dans cette perspective-là.
Et j'allais y venir. Hein, alors, juste pour revenir, c'est vrai que sur la France, hein, bah, du coup, c'est effectivement un retour intéressant, je pense, aussi pour les sociétés canadiennes qui veulent s'implanter en France. Et c'est quand même quelque chose à savoir. Effectivement, les événements qu'on va avoir en France, alors, je ne veux pas froisser, mais j'ai parlé du STIC tout à l'heure. On a le forum, le FIC, Forum in Cyber. On a le CW, European Cyber Week, la Paris Cyber Week, les Assises de la Cybersécurité, CBC, GREAC, etc. Enfin, voilà, il y a plein d'événements de cybersécurité en France. Et en fait, dans tous ces événements, clairement, enfin tous ces événements ont une portée qui est absolument nationale. Il n'y a pas de portée régionale, hein, en fait, à tous ces événements. Et les gens se connaissent de manière complètement nationale pour le coup. Donc, c'est vrai que c'est une différence. Et ce que tu disais sur les États-Unis, bah, c'est aussi une des conclusions à laquelle on est arrivé. Parce que, en faisant quelques événements à plusieurs endroits, bah, c'est pareil, en fait, on rencontre des gens sur place, on rencontre des sociétés, on rencontre des entreprises, etc. On rencontre des partenaires potentiels. Et on découvre très vite aussi ce caractère très local de tous ces gens-là. On a un partenaire, par exemple, avec qui on a échangé indirectement, qui est en Floride. Et donc, c'est un partenaire à nous, justement, qui travaille avec ce MSSP-là et qui nous a dit, bah voilà, on s'est dit, bah on va travailler avec ce partenaire-là, on va commencer sur la Floride, puis ça va nous permettre de grossir un peu autour, etc. Et donc, on en a parlé au partenaire. Et le partenaire a dit, oh là là, non, moi, c'est que la Floride. Alors que c'est un MSSP, hein, c'est un prestataire de services, etc., de sécurité. Son service, c'est le même où qu'il aille, hein. Mais en fait, il a une portée, lui aussi, qui est régionale. Et la conclusion de notre partenaire, là, c'est que pour les États-Unis, alors eux n'ont pas testé le Canada, donc on a fait un peu un échange de retour, hein. Et leur conclusion, c'est que pour les États-Unis, il faut en gros un commercial ou équipe commerciale, après, qu'on est plus gros, pour de l'ordre de 3 États. Pour être voilà, pour justement travailler aussi le caractère local. Donc finalement les États-Unis, je sais pas combien c'est la population, c'est de l'ordre de 300 millions, je crois, quelque chose comme ça. Mais c'est pareil, on est sur un minimum de 10 à 20 marchés différents finalement, alors qu'ils sont peut-être moins segmentés, mais en gros, c'est si on se dit, voilà, un pour trois États, voilà, on est entre, entre 10 et 20. Et donc, bah, j'ai envie de dire, quelque part, c'est probablement une grosse opportunité pour des sociétés, notamment canadiennes, qui voudraient aller en France. Et je parle du coup aussi aux sociétés francophones, hein, bah, du Québec. Clairement, ça veut dire que le marché français, en fait, à 60 millions d'habitants, bah, il y a quand même une opportunité qui est assez intéressante. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose voilà, qu'on n'avait pas forcément identifié avant. Alors, ça ne nous empêche pas d'avancer, évidemment. Mais ça veut dire que vraiment le caractère, bah, l'implantation aussi locale est hyper importante. Le fait que nous, on soit à Toronto, c'est vrai que c'est ça qui nous permet de travailler sur ce marché-là. Et d'avoir une vraie implantation et un vrai développement commercial sur Toronto.
Oui, mais c'est ça. Puis c'est, je trouve ça intéressant l'aspect américain puis de l'avoir souligné parce que pour beaucoup, notamment les compagnies françaises qui vivent dans un univers plus unifié, ici, c'est pas comme ça. Le Canada, c'est un bel exemple. Puis là, c'est facile de dire l'Ontario au Québec du fait de la différence de langue. Mais quand on arrive aux États-Unis, qui parlent techniquement la même langue, c'est 10 fois plus gros que le Canada, à peu près. Fait que, moi, bon, l'arrondi, comme je vois, ça sera 400 millions. Et c'est 10 réalités quand même différentes. Donc, c'est 10 Canada à l'intérieur des États-Unis en termes de réalité, parce que le Sud, c'est différent. Justement, la façon de séparer, c'est en 4, là, genre l'Est, l'Ouest, en termes de philosophie. Ça, c'est très grossier. Mais quand on va plus loin, effectivement, il faut toujours s'adresser localement à ces gens-là qui ont des réalités très, très différentes. C'est toute la surprise des Européens, notamment, de constater à quel point les États-Unis sont comme l'Union européenne, c'est-à-dire que c'est un amalgame de réalités locales, à la différence de l'Europe, par la même langue dans ce cas-ci, mais quand demeure quand même des réalités qui sont locales entre ces différents États-là ou ces regroupements d'États-là, comme tu mentionnais. Là.
Oui, c'est moins évident et on se le dit moins quand on vient de l'extérieur, notamment parce que la langue est la même, donc il y a plus d'uniformité. Comme tu disais, c'est vrai qu'entre l'Ontario et le Québec, du coup, on se le dit plus facilement. Ah bah oui, c'est pas la même langue, donc c'est pas la même culture, etc. J'ai presque envie de dire que c'est surtout pas la même langue, mais la culture est peut-être pas si éloignée que ça. Mais c'est vrai que les États-Unis, c'est pareil, c'est la même langue partout. Et pourtant, à la fois la culture, les écosystèmes sont pas les mêmes. Il y a aussi des simples raisons géographiques, hein, évidemment. Quand il va y avoir un événement, si c'est pas un événement, on va dire à portée internationale, etc. Je parle pas des RSA, DEFCON, Black Hat, etc., qui de toute façon sont très internationales. Donc là, tous les États-Unis vont y aller. Mais un événement plus local, finalement, va pas drainer de personnes qui sont en dehors de l'État en question. Là où, en France, hein, je citais par exemple CBC ou Greac, sont des événements qui sont un peu plus petits que des FI, que CW ou Assise. Mais pourtant, on va quand même y trouver des personnes qui viennent de tout le pays. C'est quand même une vraie différence.
Oui, absolument. Puis ça, je vais arracher là-dessus parce que mon expérience personnelle, j'ai commencé à aller des événements plus locaux aux États-Unis et ça a été effectivement le même constat. J'étais allé un à Chicago et c'est l'écosystème de Chicago qui apparaît et non l'écosystème de l'ensemble des États-Unis qui s'y retrouve. Et en même temps, il faut aussi considérer que les distances sont énormes aux États-Unis, comme au Canada aussi, ce qui vient changer énormément la réflexion par rapport à ce genre de choses-là, parce que Montréal, Toronto, ça se fait bien en avion, c'est une heure plus ou moins. Malheureusement, c'est juste en avion, pas en train, parce que ça, c'est un autre débat. Mais quand on arrive aux États-Unis, faire côte ouest à côte ouest, côte est-ouest, c'est un 4, 5, 6 heures, tout dépendant des vents et des destinations. On n'est plus dans les mêmes réalité géographique qu'on va retrouver en Europe où on peut aller d'un bord à l'autre de la France très, très rapidement.
Oui, c'est vrai. Comme tu dis, bah, c'est forcément en avion. C'est vrai qu'en France, enfin, je veux dire, même si on fait Rennes-Grenoble, ça se fait en quelques heures en train, etc. Donc, c'est... oui, c'est la géographie, forcément, joue sur cette fragmentation des écosystèmes. Après, mon retour, justement, c'est quelque part où est-ce qu'on en est en termes de développement. Et notamment pour revenir sur quelque chose que je disais tout à l'heure, il est évident qu'en allant directement à Montréal, on irait plus vite. C'est ça, on l'avait anticipé, hein, on le savait. Du coup, il y a quelques temps, on s'est posé la question, bah, où est-ce qu'on en est, justement, que ce soit Toronto, Montréal, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au final, on est à peu près aussi avancé sur Toronto et sur Montréal. On va presque un poil plus vite sur Montréal. Alors, je dis Montréal et pas le Québec, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup Montréal. Hein. Bon. On va un poil plus vite à Montréal. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a profité dans toute cette, dans tout notre développement, notamment sur Montréal-Québec, on a profité de la langue, évidemment, mais aussi du réseau. Parce que pour le coup, quand je disais tout à l'heure que je suis arrivé au Canada, j'avais aucun réseau, c'est pas complètement vrai sur Montréal, justement. Parce que la communauté de Français qui sont partis à Montréal, etc. Enfin, en fait, il y a de la porosité, hein, un peu de la même manière que en France, venant de l'administration, on finit par connaître des gens un peu dans toutes les entreprises privées parce qu'il y a des gens qui sont passés d'un côté ou de l'autre. Bah, finalement, c'est un petit peu pareil ici entre la France et le Canada, enfin, notamment le Québec. Il y a de la porosité et au final, on a fait des rencontres assez vite, on va dire côté Montréal. Ce qui fait que aujourd'hui, on s'est quand même développé quasiment aussi vite, voire un peu plus vite sur Montréal que sur Toronto. Mais l'avantage, c'est qu'on a fait les deux. Encore une fois, comme on disait tout à l'heure, hein, on aurait pu faire le choix d'aller d'aller à Montréal. Je suis persuadé qu'on serait allé plus vite. Ça, c'est très clair. En revanche, c'est vrai que je pense pas du tout. Enfin, même l'écosystème de Toronto aujourd'hui nous serait complètement inconnu. Et donc, on n'aurait pas du tout le développement qu'on a à Toronto avec les perspectives qui sont derrière. Déjà que c'est une ville avec quand même des très grosses entreprises, notamment du secteur financier, et puis évidemment l'ouverture sur les États-Unis.
Ouais, puis c'est intéressant ce que tu mentionnes, puis je vais rebondir là-dessus, puis je pense que c'est un point intéressant pour les entreprises françaises qui envisagent ça. Le fait d'être à Toronto t'a obligé à ouvrir un réseau que tu n'avais pas, que tu avais à Montréal, mais la porosité naturelle entre la France et Montréal permet de toute façon d'aller reconstruire ou de capitaliser sur un réseau que tu as déjà à Montréal, donc de partir. Et tu n'aurais pas eu la capacité parce que le réseau de Montréal ne te permet pas d'aller au réseau de Toronto. Et vice-versa aussi, le réseau de Toronto ne permet pas d'aller à Montréal. Mais le fait de la porosité vient compenser l'hermétisme de ces deux réseaux-là qui sont un peu plus difficiles d'accès normalement. Puis là, si tu veux rechercher un troisième, mais le réseau d'Ottawa n'est pas le même que Montréal, n'est pas le même que Toronto. Donc, c'est aussi, c'est un autre effort. Mais au moins, au minimum, tu as les deux plus gros marchés au Canada qui sont là.
Alors, c'est intéressant que tu parles du réseau d'Ottawa parce que c'était un peu là-dessus que j'allais poursuivre sur la stratégie. Vraiment, quelle est nos stratégies? Justement, d'un point de vue pénétration de marché, etc. Pour moi, dans le cadre d'une internationalisation, elle est nécessairement différente de ce qu'on peut faire en France. En France, nous, on travaille beaucoup avec des partenaires, ce qu'on appelle les MSSP, Managed Security Services Providers. Donc, c'est ceux qui vont opérer de la cybersécurité pour le compte de leurs clients. Alors, des très gros, hein, comme les Atos, Capgemini, Thales, Sopra Steria, etc., jusqu'à des plus petits, Advance, Capfi, tout ça. Voilà, je ne vais pas tous les citer. Je vous invite plutôt à aller sur la page de notre site si vous voulez avoir l'exhaustivité, comme ça je suis sûr de ne froisser personne. Et on travaille beaucoup avec ces partenaires-là, mais on travaille aussi en direct. On travaille en direct sur deux types de clients, soit les très grosses entreprises qui justement ne passent pas par des partenaires pour opérer leur cybersécurité. Il y en a où effectivement du coup on va les adresser, on va les contacter directement et puis ils vont potentiellement nous acheter le produit de toute manière. Et puis aussi bien sûr la partie administration pareil, ils opèrent aussi pour beaucoup leur propre cybersécurité et donc ça va être des clients pour nous. Quand on va à l'international, et là pour moi ça c'est vrai au Canada mais c'est vrai ailleurs, hein, on peut pas forcément se permettre d'avoir cette même stratégie. Parce que travailler en direct quand on n'est pas une société locale, c'est beaucoup plus difficile. Ça veut dire qu'il faut avoir plus d'équipes locales. Il faut avoir des équipes de support, évidemment. Il faut avoir des équipes projet qui vont accompagner la création du projet, etc. Je doute pas qu'on en aura dans le futur, hein, mais aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Donc en fait, on ne peut pas aller travailler en direct, que ce soit avec les clients ou que ce soit avec les administrations. Le cas d'Ottawa, c'est typiquement ça. C'est beaucoup le gouvernement fédéral. Et pour nous, il n'est pas question d'aller travailler directement avec le gouvernement fédéral. En plus, il va y avoir des contraintes justement sur l'emploi de personnes locales, etc. Même si aujourd'hui, hein, enfin moi je suis salarié canadien, soit d'une filiale, c'est quand même pas tout à fait pareil. Donc là, clairement, on va s'adresser à des partenaires. Et puis pour le reste du pays, enfin voilà, il y a pas juste Ottawa parce que c'est pour les administrations, hein. Mais même ici à Toronto, j'ai même envie de dire, même si par exemple je tombe sur une très grosse banque, il me dit moi j'opère ma cybersécurité moi-même, donc j'ai envie d'acheter votre produit en direct. Je pense pas, je suis pas sûr qu'on le fasse. Je pense qu'on dira, on entend bien, mais pour la partie déploiement, etc., on préfère s'appuyer sur quelqu'un de local. C'est quand même, on va dire, plus efficace, à la fois pour le client final, parce qu'il sait qu'il a quelqu'un potentiellement qui connaît, etc. Et puis pour nous, parce que bah, ça permet d'avoir, on déploie la solution avec un client. Et puis en fait, dans 3 mois, ce client se fait attaquer. Et du coup, en plus, il faut avoir une réponse à incident, et donc il faut avoir encore plus de personnes sur place pour les aider à traiter l'incident. Alors nous, c'est pas notre métier de traiter l'incident de toute façon déjà, mais de toute façon, comme ça, on sait qu'il y a déjà quelqu'un qui va faire l'accompagnement, qui connaîtra notre solution, etc. Et donc, ce sera quand même beaucoup plus efficace. Un des problèmes de cette stratégie-là, c'est qu'on passe du B2B, donc professionnel. Vers professionnel, je ne suis pas sûr d'avoir l'équivalent en québécois pour le coup, au B2B2B. C'est-à-dire qu'on va s'adresser, nous, à une entreprise qui va s'adresser à une autre entreprise. Et ça, ça double les temps. Et ça, ce n'est pas évident. C'est-à-dire que c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Ça veut dire que quand on arrive comme ça à l'international dans un autre pays, on a toute la phase qui est encore en cours pour nous, hein, de partenariat. On va créer les partenariats. Et seulement une fois qu'on a fait ça, on va avoir les premiers clients. Mais le partenaire n'est même pas forcément le premier client. Le partenaire, en fait, c'est qu'il va y avoir tout le travail pour convaincre un partenaire de dire, voilà, cette solution est intéressante pour vous et vos clients. Et ensuite, le partenaire va devoir la revendre. Donc, ça rend la chose très, très longue. Et aujourd'hui, je suis très fier de pouvoir dire qu'on a signé des partenariats au Canada. Mais on sait qu'il y a encore une route à faire pour développer vraiment commercialement les clients en local, parce que bah, c'est la deuxième phase avec ces partenariats. Et là, il faut aussi bah, évidemment les accompagner, les aider, etc. Même une fois qu'on a signé le partenariat, justement, c'est aussi notre travail de leur trouver les premiers clients, parce que c'est ça qui va finir de les convaincre. Sinon, les intégrateurs, etc., tant qu'ils n'ont pas eu les quelques premiers projets, c'est pas forcément eux qui vont être force de proposition auprès de leur client. En revanche, quand nous, on leur a apporté 1, 2, 3, 4 clients, qu'ils auront vu la plus-value pour leurs clients et pour eux, évidemment, c'est là qu'ils vont se dire, bah oui, ok, maintenant, on va commencer, par exemple, à se former, à être plus autonome, à le proposer de manière plus systématique, etc., etc. Mais il y a vraiment une machine à lancer qui, du coup, est d'autant plus longue à l'international parce que on a cette contrainte-là de passer un peu plus de manière systématique par des partenaires.
L'usage de partenaire ou l'anglicisme, c'est le channel, c'est-à-dire que tu utilises toujours un partenaire, puis c'est très, je sais pas si en Europe c'est comme ça, mais en Amérique c'est énormément comme ça, c'est très rare qu'on achète de façon directe, c'est toujours à travers des partenaires qu'on va acheter nos solutions de cyber, en tout cas dans la majorité des cas, donc c'est plutôt rare que du direct, du B2B comme tu le mentionnais, mais là c'est vraiment toujours un intermédiaire qui vient entre les deux, un intégrateur, un vendeur, ou peu importe la façon qu'on veut le nommer. Cet aspect-là, puis c'est intéressant que tu le mentionnes parce que moi, spontanément, c'est l'usage d'un channel est normal dans le marché dans lequel ici, comme moi, comme si je me place dans les souliers d'un acheteur, je vais pas vers Glimpse, je vais aller nécessairement vers mon revendeur préféré qui a une palette de produits à me proposer et à la limite, dans certains cas, d'intégrer aussi dans mon infrastructure.
Oui, c'est pas mal ça aussi. C'est quand même pas mal ça en France, mais c'est vrai que quand on est plus implanté dans le marché, etc., on sait aussi qu'il y a des personnes à qui on va pouvoir s'adresser directement. Oui, c'est aussi ce qu'on a pu voir nous ici, et voilà, donc on est toujours en train de travailler ce réseau de partenaires. Pour finir, quelque part, où est-ce qu'on en est, justement? Aujourd'hui, le réseau de partenaires, on commence à le constituer. Enfin, on l'a constitué. Hein, on a signé effectivement notre premier partenariat. Et je dirais depuis 2-3 mois, on a un petit peu changé, on va dire, dans notre manière d'adresser le marché, justement en passant aussi un peu plus par des personnes qui ont un réseau localement. À la fois sur Toronto, Ontario d'une manière générale, et sur Montréal. Maintenant, on travaille avec des personnes qui vont vouloir aussi représenter Glimpse, hein, on dirait un peu au quotidien, parce que, bah, mine de rien, pour nous, voilà, on peut pas être partout non plus, hein, évidemment, qui vont pouvoir utiliser leur propre réseau aussi dans ce travail de représentation. Et donc, c'est vraiment pour nous l'objectif de passer à la vitesse supérieure. Maintenant que les gens nous connaissent, et ça c'est intéressant, c'est le retour qu'on a justement de cette personne-là quand ils font un peu du démarchage, quand ils vont voir des gens, etc. Ils disent, ah bah oui, Glimpse, on voit qui c'est. Donc ça c'est quand même un retour très positif. Et maintenant, bah, on commence effectivement à passer à la vitesse supérieure pour accueillir plus de partenaires, plus de clients, justement en utilisant des personnes qui ont une présence plus locale, qui connaissent un petit peu plus aussi l'écosystème, etc. Et donc, voilà, on a commencé ça il y a 2-3 mois avec des résultats plutôt intéressants.
Vraiment très chouette. Comme tu mentionnes, ça termine cette exploration-là, ce partage-là sur le marché, qui est quand même assez neuf, parce que ça fait pas un an que vous avez complètement adhéré. J'imagine qu'il va y avoir d'autres surprises ou d'autres découvertes qui vont se faire en cours de temps. Justement, comme tu mentionnes, que tu as récemment allé plus vers des partenaires locaux et des réseaux locaux qui t'aident justement à te propulser. Mais de ça, le fait que tu es très présent à Montréal et à Toronto doit jouer énormément dans cette création-là, de ce réseau-là. Puis ça vient toujours un peu à cette discussion-là que c'est important de s'intégrer localement. Là. Puis d'autant plus qu'au Canada et aux États-Unis, on est tous dans des petites bulles. On est une panoplie de petites bulles. C'est intéressant de voir puis de voir ce regard extérieur-là, parce que même pour moi, même oui, je savais qu'on était dans notre petite bulle, mais je ne savais pas à quel point c'était vraiment comme ça, puis de se le faire montrer. C'est très intéressant parce que ça explique aussi beaucoup de choses de comment nos marchés fonctionnent. Puis même au Québec, on a une dualité Québec-Montréal. Fait que, on est énormément dans des petits silos. Fait que même le marché québécois est au moins dans deux grands blocs, si c'est pas plus, parce qu'il y a quand même d'autres réalités régionales qui existent et ça se réplique à l'extérieur du Canada. Et l'effet, puis là, tu vois, j'imagine que sur le cadre à terme, Toronto n'est pas bien perçu par le restant du Canada non plus. Donc, un stigmate négatif par rapport à ça, un peu comme on peut voir en France où Paris est moins bien perçu par les villes en dehors de Paris. On a un peu ce même... on a tout ce plaisir de ce chose-là, mais moi, je trouve ça très intéressant d'avoir ce regard-là extérieur à notre réalité locale.
Alors, ce qui est rigolo, c'est que moi, j'arrive aussi, peut-être avec mon regard naïf, hein, de ça, en me disant, allez, je vais travailler à Toronto, je vais travailler à Montréal, je vais travailler au Québec, je vais travailler dans tout le Canada. Mais du coup, effectivement, comme je me suis pas bloqué, je me suis pas auto-freiné sur ces sujets-là, j'ai créé mon réseau sur ces différents endroits. Et ça m'est déjà arrivé de faire des mises en relation entre des personnes de Montréal et des personnes de Toronto, parce que je me suis dit, mais attendez, mais là, en fait, vous savez, vous devriez vous parler, vous deux, parce que vous avez des choses à échanger. Et ça m'est... Enfin, c'est vrai que moi, avec mon rôle d'extérieur, comme ça, qui suis arrivé presque un peu naïvement, finalement, le fait d'avoir construit ce réseau me donne déjà, quelque part, une position qui m'a permis de faire des mises en relation entre Toronto et Montréal en particulier.
Très intéressant de ton rôle extérieur, tu sois capable de faire des mises en relation que nous-mêmes on a des difficultés à voir, mais tout ça c'est merveilleux, ces belles découvertes là. On va conclure là-dessus. Ça fait un énorme tour d'horizon de ce que c'est. C'est très intéressant parce que j'espère pour que les compagnies à l'extérieur du Canada vont être capables, francophones, vont être capables de voir l'avantage notamment de la Toronto versus Montréal et d'explorer ces éléments-là et vice-versa aux compagnies canadiennes de pouvoir peut-être avoir un petit retour sur comment fonctionne un peu plus le marché français et européen aussi dans cette aventure-là.
Eh bien, merci beaucoup à toi. C'était un vrai plaisir de faire ce retour d'expérience. Et donc, je pense qu'on va se retrouver très bientôt pour, pour creuser aussi les, notamment tout ce qui est autour des différences culturelles dont on a effleuré le sujet à plusieurs reprises, mais sur lesquelles, à mon avis, il y aura beaucoup d'autres choses à dire.
Il y a beaucoup d'autres choses, puis c'est l'autre pendant de s'internationaliser. Ces différences-là sont très intéressantes à discuter, fait qu'on va consacrer dans un deuxième épisode. Pour ceux qui sont été jusqu'à la fin, il va en avoir une suite de, justement de sur ce sujet-là, mais plus sur le volet culturel de la différence entre l'Europe et l'Amérique.